France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui sur le conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui est aussi de plus en plus une guerre de l'eau. Et puis pour le débat, nous recevrons un historien, un traducteur, professeur en études chinoises à l'École Normale Supérieure de Lyon, et l'un des plus grand spécialiste de la culture politique de ce pays. Dans une semaine que Xi Jinping aura largement passé aux côtés de Vladimir Poutine à Moscou, au cours de laquelle il aura également tendu la main aux Européens et négocié avec Donald Trump, il est important de s'attarder sur les formes et les finalités du pouvoir et de la puissance chinoise. Et à lire le livre de notre invité, Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise, paru chez Gallimard, il faut plonger dans l'histoire et même dans l'histoire ancienne de ce pays. Romain Graziani sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Négaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Bonjour.
Allez, on commence avec la politique française. On se projette mardi prochain sur TF1 où Emmanuel Macron répondra aux questions de Gilles Boulot, mais aussi de Thibaut Enshape, le youtubeur musclé, ou encore de Sophie Binet, la patronne de la CGT. Ça sera pendant au moins 2 heures. Gilles, pas Boulot, mais Gilles Finkelstein, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle il reprend, Emmanuel Macron, pleinement la main, y compris en politique intérieure, parce qu'en politique étrangère, il est aujourd'hui à Kiev, c'est ce qu'on appelle son précaré. La politique intérieure, il y revient.
Disons qu'il essaye de le faire. Et que si on essaye de se remémorer ce qu'était sa situation au mois de mai, juin, juillet de l'année dernière, les jours n'étaient que succession de désastres. Désastres électoraux avec les élections européennes et les élections législatives, désastres institutionnels avec l'instabilité gouvernementale et l'impuissance parlementaire, et surtout, ou aussi pour lui, désastres personnels, parce que plus que l'impopularité, l'incompréhension qui a accompagné sa décision a fait que on s'interrogeait sur à la fois non seulement sa vista de chef, mais sur la stabilité psychologique. Donc si on se remémore ce qu'était cette période-là, où la présidence était un champ de ruines...
On parlait de démission...
Voilà, la situation aujourd'hui, elle est à la fois, je dirais, inespérée et dégradée. Elle est inespérée quand on la compare au sens où il a retrouvé de l'espace, il a retrouvé de l'espace en raison de la situation internationale et aussi de la personnalité du Premier ministre. Mmh. Et elle est dégradée parce que sa popularité demeure faible, que ses capacités d'action demeurent limitées, que son bilan reste modeste. Et donc, c'est ce qu'il va essayer de contrecarrer, la question étant sous quelle forme il va essayer de peser et d'agir.
Bon, on vous la pose, Natacha. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Sous quelle forme est-ce qu'Emmanuel Macron peut agir dans ce moment inespéré mais dégradé, pour reprendre les adjectifs de Gilles?
Ce qui est intéressant, c'est que donc ce qu'on sait de l'émission de TF1, ce sera évidemment la succession de personnalités très diverses. Hein, on peut ajouter Salomé Sacquet. Donc il va s'agir de parler à la jeunesse, de parler écologie, avec Sophie Binet, de parler du pouvoir d'achat, du travail. Il y aura aussi, on annonce, Charles Biétry, qui est atteint de la maladie de Charcot, donc une dimension davantage sur la question de la fin de vie. Donc vous voyez que on perçoit d'ores et déjà qu'Emmanuel Macron veut exister sur des sujets qui, en fait, relèvent du Parlement, une fois de plus. Dans l'émission, on annonce également une enquête sur le bilan d'Emmanuel Macron et les priorités des Français pour les 2 années à venir. Oui. Alors, le bilan, tout le problème, c'est que pour l'instant, ce qu'il en reste, et c'est en cela qu'Emmanuel Macron a besoin de parler, ce qu'il en reste dans la mémoire collective, eh bien, dans les débats actuels, c'est 1000 milliards de dettes et des baisses d'impôts pour les plus favorisés au début de son quinquennat. Pour le reste, ça patine terriblement, mis à part, en effet, cette posture internationale qu'il a voulu mettre en avant justement pour compenser les difficultés à, l'intérieur.
Natacha, pas seulement pour ça, c'est aussi parce qu'il prétend également qu'il est important que la France pèse sur les relations internationales. C'est pas que pour masquer les faiblesses intérieures.
Nous sommes bien d'accord, mais là j'avais en tête notamment l'absence de campagne présidentielle en 2022, qui me semble un problème dont nous allons payer les conséquences longtemps. Tout cela pour dire que ce qui me frappe, c'est qu'une fois de plus, Emmanuel Macron a du mal à admettre que nos institutions ne sont pas uniquement présidentielles et que dans un moment qu'il a lui-même provoqué par la dissolution, et plus encore qu'à la suite des législatives de 2022, eh bien, la figure du président est normalement effacé. Il peut évidemment essayer d'apparaître, mettre en avant ses positions sur les questions de fin de vie, etc. Cela relève du Parlement et c'est au Parlement de se prononcer. C'est vrai pour d'autres sujets. La chance d'Emmanuel Macron, c'est que le Parlement est visiblement totalement entravé, que, comme le disait Gilles, le gouvernement et le Premier ministre ont bien du mal à fixer une ligne, mais ce n'est pas sur le vide qu'on pose une position politique.
Gilles, en revanche, on annonce peut-être des grandes décisions qui sont, pour le coup, très présidentielles, puisqu'on évoque la possibilité de l'annonce de référendum. Il n'y a pas eu de référendum en France à l'échelle nationale depuis 2005, donc ça fait quand même une vingtaine d'années, et le traumatisme, peut-être, du non-référendum sur l'Europe. Est-ce que cette hypothèse-là, elle est réellement formulée et dans quel domaine est-ce qu'on pourrait imaginer des référendums annoncés mardi?
Oui, on voit ce que disait Natacha, que Emmanuel Macron veut faire événement avec cette émission, et je pense que jusqu'à mardi, peut-être même après mardi, on va beaucoup parler, disons, de cette mise en scène et de la mise en mots. Ce qui va rester, peut-être, c'est s'il y a des actes. Et le seul levier dont dispose aujourd'hui Emmanuel Macron pour agir sur la scène intérieure, dès lors qu'on peut écarter, en tout cas pour mardi, l'hypothèse d'une dissolution, c'est celle du référendum. Référendum qu'il a évoqué le 31 décembre dernier dans sa cérémonie de vœux. Déclarations qui ont été accueillies avec scepticisme parce que c'était la quatrième fois qu'il le disait et parce que c'était flou, qui est encore aujourd'hui accueilli avec scepticisme. Je lisais ce matin dans Le Figaro une enquête au Doxa qui montrait que 60% des Français pensaient qu'il n'y aurait pas de référendum. Et moi, depuis le 31 décembre, je dis à chaque fois que je pense qu'il va le faire pour ne pas se résigner à l'inaction et par rapport au bilan qu'évoquait Natacha, pour essayer de nourrir le bilan du renouveau démocratique. Je pense que ce n'est pas un hasard s'il a lancé la troisième convention citoyenne sur les temps de l'enfant la semaine dernière, et s'il lançait mardi prochain un ou plusieurs référendums en essayant d'en inventer une nouvelle pratique. Et c'est ça le défi devant lequel Emmanuel Macron se trouve, c'est, si je le dis d'une formule, c'est de déprésidentialiser sans dépolitiser. Déprésidentialiser, ça veut dire que, à la différence de la pratique gaullienne du référendum, non seulement il ne lie pas son sort au résultat du référendum, mais même qu'il ne s'y engage pas au-delà du lancement du référendum.
Vous voulez dire qu'il ne ferait pas campagne, par exemple?
Je pense que ce serait son intérêt. Est-ce qu'il le fera? Ça, je ne sais pas. Mais sans dépolitiser, ça veut dire que si on convoque un référendum, il faut qu'il y ait un enjeu. Et c'est ça, et c'est pour ça que on voit bien la ligne stratégique qu'il peut essayer de tenir, qu'elle est plus difficile à appliquer, de trouver les bons sujets sur lesquels on peut faire ça.
Et vous avez dit le mot gaullien. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être le choix du 13 mai n'est pas absolument dû au hasard. Le 13 mai 58, c'est quand même la date du rappel du général de Gaulle par les Français. Qui va lancer précisément cette 5e République ?
Le 13 mai 68, 10 ans après, est celle d'une grande manifestation contre le général de Gaulle aussi.
C'est vrai. Natacha, peut-être un mot pour conclure ce premier duel sur la notion de référendum ?
Un mot rapidement, d'abord sur le 13 mai 58, quand De Gaulle arrive, il a en tête une nouvelle constitution, une réforme des hôpitaux, des universités, une grande dévaluation pour retrouver du souffle. Bref, on est très très loin de la situation actuelle. La situation actuelle, en effet, Gilles l'a dit, il faut trouver un sujet de référendum qui permette de ne pas prendre le risque du désaveu. Je trouve cela tout de même problématique pour une raison simple. C'est que si le référendum est simplement réduit à un outil de communication politique pour faire réexister le président, c'est une catastrophe et ce sera encore une possibilité institutionnelle qui aura été abîmée. Si ça devient, mais l'exercice est compliqué, le début de quelque chose qui permet de réimpliquer les citoyens dans une démocratie plus vivante, alors ça peut être utile, mais nous sommes très loin de la culture des votations à la Suisse. Nous voyons à quel point tout le monde rejette le référendum d'initiative citoyenne et ne rénove pas le référendum d'initiative participative tel qu'il peut exister. Donc, je reste un peu sceptique.
Le grand face-à-face.
Questa è la pace di Cristo risorto.
Voici la paix du Christ ressuscité. Une paix désarmée, une paix désarmante.
E perseverante.
Persévérante.
Proviene da Dio.
Elle provient de Dieu.
Ci ama tutti.
Dieu qui nous aime tous.
Incondizionalmente.
Et de manière inconditionnelle.
Les premiers mots du pape Léon XIV, qui dans sa première homélie en tant que pape, donc à hier, également regretté le recul de la foi au profit, je le cite, de la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Que vous inspire cette élection et ses premiers pas de pape, Natacha ? Pas facile à dire.
Alors, je pense en effet que tout le monde a guetté les premiers mots, ceux sur que vous venez de citer, sur la famille, sur la foi, contre le profit, sont très classiques dans la bouche d'un pape. Ceux qu'il a prononcés lors de son premier discours, place Saint-Pierre, disant qu'il voulait une église, synodale. Oui.
Une obsession peut-être, Natacha, non?
Une institution essentielle peut-être.
Allez-y.
Bref, il voulait une église synodale, me semble, là aussi, au-delà du caractère convenu, un petit peu plus intéressante parce que c'était un des grands chantiers lancés par son prédécesseur François. Mais il est de toute façon très difficile de savoir exactement ce que sera un pontificat dans les premiers jours. François, de ce point de vue-là, était une exception. On savait qu'il était jésuite, on savait qu'il était sud-américain et par là même héritier d'une culture théologique particulière. Ce n'est pas tout à fait le cas de son successeur. On peut dire qu'il a été missionnaire, ce qui est une dimension importante, augustinien. On peut se souvenir que les augustiniens sont à l'origine un ordre mendiant. Ça peut laisser dans l'idée qu'il y aura une attention aux plus pauvres qui était celle de son prédécesseur. Je pense que l'élément le plus important, me semble-t-il, c'est le fait que les cardinaux aient choisi d'élire un pape américain mais tourné vers l'Amérique latine. Et il me semble que dans l'état actuel du monde, c'est un geste qui ressemble à l'élection d'un pape polonais en 1978. C'est un message éminemment politique. Au-delà de la personnalité même, plutôt apaisante, plutôt conservatrice et modérée du pape, le fait d'envoyer ce message à Donald Trump, là où il y a une tentative, on va dire, d'orienter un supposé renouveau catholique à travers la figure de J.D. Vance, je pense que les cardinaux ont montré par là que d'abord l'Église ne retournait pas, ne se recroquevillait pas à nouveau sur l'Europe, qu'elle continuait à se tourner vers le monde, mais qu'elle se tournait vers le monde sans complaire à toutes les nouvelles formes de catholicisme identitaire.
Gilles, c'est vrai que l'élection de ce nouveau pape déplaît à une partie des catholiques américains. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, encore très présent quand même dans la galaxie trumpiste, avait déclaré quelques jours avant l'élection du nouveau pape que la catastrophe serait que celui-ci devienne pape. Il est devenu pape. Est-ce que pour autant, il faut y voir un geste politique là où les cardinaux, théoriquement, ne sont guidés que par la prière et par la foi ?
Alors, je vais moins parler du pape que de nous et du pape. parce que je suis moins spécialiste du pape
que de nous.
Peut-être avec deux choses, moi, qui m'ont intéressé. Pourquoi nous, Français, nous sommes-nous passionnés pour l'élection du pape ? On en avait parlé il y a 15 jours. Nous sommes un pays dans lequel les catholiques, et a fortiori les catholiques pratiquants, sont désormais très minoritaires. Et ce n'est pas la puissance du pape qui a une voix forte, mais une influence faible, qui justifie cette passion. Mon hypothèse, c'est parce que ça mobilise deux registres qui résonnent dans l'imaginaire français. Le premier, c'est le registre de notre habitus démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas une élection qui répond à nos critères démocratiques, ni dans ses modalités, ni dans sa philosophie, mais c'est une élection qui est enracinée, qui est codifiée, et qui est, et c'est très important, disputé. Nul ne sait qui va être pape quand on rentre dans ce conclave. On en a d'ailleurs eu encore une illustration avec cette élection. Mais le fait d'avoir que ça rentre dans notre habitus démocratique ne justifie pas à lui seul que ça, on s'y intéresse, parce qu'il y a beaucoup d'autres élections. Et donc c'est là où il y a, je crois, un deuxième registre qui est celui de notre imaginaire monarchique. Le mandat à vie, l'apparat, le faste, le décorum, l'enracinement multiséculaire.
Le véritable pouvoir, peut-être aussi.
S'il y a un sillon démocratique profond dans notre pays, on voit qu'il y a des traces monarchiques qui restent. Et j'en avais eu une illustration dans une enquête quand on avait interrogé les Français sur le mot de souveraineté. On voulait savoir si c'était plutôt du registre du nationalisme, du repli, du souverainisme, ou plutôt du registre de l'indépendance, la manière dont ils comprenaient le mot. Leur réponse, c'était le roi, la reine, la monarchie. On voyait la puissance de cet imaginaire monarchique. Donc ça, c'est ma première remarque, pourquoi nous, Français, nous y sommes intéressés. Et la deuxième, qui va faire écho à ce qu'a dit Natacha, c'est pourquoi, dans le monde, on a d'abord réagi à l'annonce de l'élection du pape par sa nationalité, qui est quand même très frappant. Américain. Le premier pape américain. Non ! On dit aux autres, non, en fait, il n'est pas américain, il est péruvien, il est d'abord péruvien, quand d'autres disaient, mais quand même, il a aussi des ancêtres, grands-parents qui sont français ou italiens. Et donc, s'il y avait une discussion, ou s'il y a une discussion sur sa nationalité, il y avait un consensus pour en faire le point d'entrée dans l'analyse. Et c'est un paradoxe qui est quand même étonnant, parce qu'on entre par la nationalité pour une fonction qui est la plus transnationale qui existe.
Avec un discours dans une langue, l'italien.
Exactement. Et deuxième remarque, quand on compare la teneur des débats après la mort du pape François et après l'élection du pape Léon, on voit qu'on entre dans l'élection par l'identité, la nationalité, et on termine le bilan, vous vous souvenez des débats, par la gauche et la droite, et donc par la politique. Non, je trouve ça quand même assez savoureux.
Natacha, est-ce que ça vous trouve ça savoureux ? C'est marrant parce que chacun de vous deux a ses obsessions. Hein. Gilles, la droite, la gauche, et vous, l'école, puisque vous avez fait un lapsus. Voilà. Mais restons un instant sur le pape encore. Natacha, qu'en pensez-vous de cette lecture très politique et très sociologie politique de la part de Gilles ?
Mais je la partage totalement, en particulier sur tout ce qu'a révélé l'attrait pour cette élection. J'ajouterais une chose, c'est que le ritualisme des religions colle parfaitement à l'univers médiatique qui est le nôtre. Ça fait des belles images. Et les chaînes d'information continue l'ont compris et étaient à temps plein là-dessus, parce que ça permet des commentaires sans fin sur ce que signifie tel ou tel rite. Oui. Bref, nous avons beaucoup de mal à nous détacher du ritualisme des religions. Et peut-être que ce pape-là sera moins hostile à ce ritualisme que ne l'était le pape François. Là aussi, question de culture théologique. En revanche, une chose est sûre, l'élection d'un pape a des conséquences, et des conséquences géopolitiques extrêmement importantes. Sans s'en tenir uniquement à l'exemple de Jean-Paul II, qui est le plus évident, mais de fait, la façon dont le Vatican pratique la diplomatie, l'image qu'il envoie aux 1,4 milliard de catholiques dans le monde, la façon dont il va se positionner, j'insistais sur le fait qu'on n'est pas revenu à un pape européen, c'est important, parce que ce qui a profondément agacé, nous en avions parlé il y a deux semaines chez François, c'est le fait que ce n'était pas un pape occidental. C'était un pape de la désoccidentalisation. Celui-là est dans un entre-deux, et on voit comment, en fait, dans beaucoup de choses, on va avoir peut-être une forme d'apaisement et de consolidation. Toute la question pour les structures de l'Église catholique, c'est est-ce que cet apaisement va permettre d'effacer tout ce qu'avait tenté François sur la question de la réorganisation de l'Église, de la mise au pas de la curie, sur la question même de l'ouverture sur des sujets sociétaux, parce que c'est très important pour beaucoup de gens dans le monde, ou est-ce que ça va être une forme d'apaisement, de stratification, une façon de permettre à tout cela de s'ancrer dans l'Église.
Et dans le jeu des différences, le pape François adorait le football, et Gilles, ça vous concerne, le pape Léon adore le tennis.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, troisième sujet du duel, la paix qu'appelle de ses voeux Léon XIV, elle peine à être entendue en Inde. L'Inde et le Pakistan, depuis fin avril, attaque terroriste meurtrière perpétrée par les Pakistanais dans le Cachemire indien. Depuis riposte contre riposte, se succède un conflit entre deux puissances nucléaires qui fait évidemment craindre le pire. Mais pour l'heure, ce n'est pas l'atome qui est utilisé en plus des armes traditionnelles, c'est l'eau. Narendra Modi, Premier ministre indien.
L'eau appartenant à l'Inde s'écoulait jusque-là vers l'extérieur. Elle sera désormais stoppée pour servir les intérêts de l'Inde et sera utilisée pour le pays.
Menace terrible, vitale. L'Inde pourrait couper l'eau des fleuves qui prennent leur source en Inde et qui irriguent le Pakistan. C'est ce qu'a annoncé mardi le Premier ministre indien qu'on vient d'entendre. Le Pakistan a prévenu de son côté que cela serait considéré comme un acte de guerre. Gilles, est-ce qu'on est à l'aube d'un conflit de plus grande ampleur? Et puis plus largement, ça fait des années que j'entends parler de la guerre de l'eau, est-ce qu'on y est?
Bon, si on repart d'où vient ce conflit, il y a les origines immédiates, vous les avez évoquées, des attentats terroristes meurtriers, barbares, dans le Cachemire indien, qui ont assassiné des touristes indiens, dont la responsabilité a immédiatement été attribuée par l'Inde au Pakistan lui-même, à l'État du Pakistan lui-même, et derrière sa succession de représailles dès le mercredi, le jeudi, et cette nuit encore des deux côtés. Il y a évidemment des sources, des origines plus lointaines, et je dirais plus structurelles, le Cachemire étant une des zones les plus fracturées et les plus instables et les plus militarisées du monde.
Et les plus disputés.
Fracturé, il y a cette fracture entre l'Inde et le Pakistan depuis l'accession de l'Empire indien à l'indépendance. Et plusieurs conflits armés. Mais ce n'est pas la seule fracture, puisque au-delà de cette fracture centrale, il y a aussi une fracture entre l'Inde et la Chine, puisque dès 1962, une partie du Cachemire a été récupérée par la Chine.
C'est la question de l'Aksaï chinois.
Et enfin, entre la partie indienne du Cachemire et le reste de l'Inde, avec le statut du Cachemire, puisque il y a peu, en 2019, le président Modi a supprimé le statut d'autonomie du Cachemire. Donc, fracture multiple, instabilité à la fois juridique, parce que il n'y a pas une frontière entre l'Inde et le Pakistan, il y a une frontière de fait qu'on appelle la ligne de contrôle. Et instabilité militaire, puisque affrontements et guerres se succèdent. Où en est-on, et j'en viens à cette question de l'eau, où en est-on pour autant qu'on le sache, parce que la guerre de désinformation est absolument massive. Ce qui est sûr, c'est que l'affrontement militaire se fait au-delà des frontières du Cachemire, au Pakistan et en Inde. Que si ce n'est pas inédit, il y a eu d'autres guerres, c'est sans doute un des plus sérieux. Et c'est un des plus sérieux parce qu'il n'y a pas seulement une dimension militaire, il y a cette guerre de l'eau que vous évoquiez, notamment sur le fleuve qui part du Cachemire indien et qui va vers le Pakistan, qui s'appelle l'Indou, et l'Inde s'est retirée du traité de l'Indou, mais avec peu de capacité pour réellement mener cette guerre de l'eau, c'est-à-dire pour empêcher l'eau de couler, parce qu'il y a peu de barrages. Et puis il y a cette dimension militaire, on n'est pas encore dans la guerre, mais ce sont deux pays nucléaires et avec un monde qui est de moins en moins régulé, donc une situation de danger.
Natacha, je commence par ce qu'a dit Gilles à la fin, ce monde de moins en moins régulé. Est-ce que c'est ça aussi l'un des facteurs d'inquiétude majeure de ce conflit qui est quand même larvé, en effet, quasiment depuis 1947 et l'indépendance et la partition ?
Bien sûr, puisque en effet, parmi les trois grands conflits depuis 1947, hein, c'est 65, 71 et 99. En 99, il y a ce qu'on avait appelé la guerre du Kargil, et Bill Clinton avait immédiatement convoqué le premier ministre pakistanais, Nawaz Sharif. C'est-à-dire qu'il y avait une implication extrêmement importante des États-Unis dans la zone.
Ouais.
Ne serait-ce que parce que, dans les années 80, par exemple, la CIA avait plus ou moins utilisé le fameux groupe Laksar et Toiba, qui est celui qui est accusé aujourd'hui de l'attentat, qui était déjà utilisé par les services de renseignement pakistanais en Afghanistan. Donc, on voit que cette zone-là était une zone d'influence américaine. Or, mais certes, Marco Rubio a commencé à dire que les États-Unis proposaient éventuellement leur intercession, mais c'est évidemment un désengagement par rapport à la position précédente. C'est d'ailleurs ce qui semble inquiéter, puisque le G7 a appelé à la désescalade. Vendredi, c'est le chef de la diplomatie saoudienne qui s'est rendu à la fois au Pakistan et en Inde, et avant cela, il y avait une visite de l'Iran, c'est-à-dire que tout le monde se dit que c'est une très mauvaise idée que tout cela s'envenime. Et la Chine, évidemment, a amplifié son soutien au Pakistan depuis les dernières années. Donc on voit que dans un monde qui n'est plus un monde régi par la superpuissance américaine, mais qui est un monde où les implications des différents conflits sont en train de créer une instabilité énorme, ce conflit spécifique devient beaucoup plus dangereux que ne l'étaient ceux qui ont précédé. On ajoute que on a quand même visiblement, pour peu qu'on le sache, assisté, enfin en tout cas on n'y a pas assisté hélas, mais il y a eu une des plus importantes batailles aériennes de l'histoire. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner et ce que disent notamment certains médias américains. Je termine sur la question de l'eau. La question de l'eau, dans ce cadre-là, est très importante. Pourquoi ? Parce que le Pakistan est en train de vivre un changement climatique extrêmement important, et c'est une des zones de la planète qui est en train, par endroit, de devenir inhabitable, puisque, je crois qu'on l'avait déjà évoqué il y a longtemps dans une précédente émission, la question de la chaleur humide, est beaucoup plus dangereuse que la chaleur sèche, et il y a au Pakistan des zones où cette chaleur humide rend impossible la vie humaine. Voilà, donc danger de deux points de vue qui sont essentiels. J'ajoute pour terminer que tout ce contexte-là, le contexte, c'est des chefs militaires affaiblis au Pakistan et un Narendra Modi qui a perdu la majorité absolue aux élections de 2024. Ça donne des leaders politiques qui ont intérêt à exciter leur population pour masquer leurs échecs.
C'est un peu inquiétant quand même ce que vous nous racontez l'un et l'autre, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un monde dérégulé, avec des dirigeants affaiblis, avec des problèmes frontaliers qui ne sont pas réglés. Il y a là quasiment tous les éléments d'une équation dont le résultat n'est pas inconnu, mais qui est la guerre.
Oui, et avec une escalade dont on voit comment elle est alimentée par les médias et les responsables politiques des deux pays, et qu'il est difficile d'en sortir. Une dernière phrase, c'est un monde dérégulé, et c'est un monde, quand on regarde ce conflit, on voit aussi à quel point cette idée du Sud global dont on a parlé pendant des mois et des mois est largement un mythe, parce que là, il y a à la fois l'affrontement entre l'Inde et le Pakistan, mais il y a derrière les affrontements entre l'Inde et la Chine qui aide fortement le Pakistan, la Russie qui est aussi quand même derrière ou avec l'Inde, et donc on voit que ce Sud global est largement un mythe.
Un mythe autant peut-être que l'Occident collectif dont parle sans cesse Vladimir Poutine. L'ombre de la Chine, elle pèse sur ce conflit et elle va être au cœur de notre débat. Place au débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Romain Grandiani.
Bonjour, merci de me recevoir, mon petit livre et moi.
Merci d'avoir accepté, vous et votre gros livre, hein, notre invitation. Vous êtes historien, professeur en études chinoises à l'École normale supérieure de Lyon, et vous signez ce livre que j'ai trouvé fascinant, Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise chez Gallimard. Je dis fascinant parce qu'il y a un côté livre d'archéologie. Il s'éloigne de la mousse du quotidien, qu'on quitte là, pour embrasser le temps long, clé majeure de compréhension de la Chine d'aujourd'hui, de son rapport au pouvoir et à la puissance, les deux termes n'étant pas toujours synonymes. Mais pour entrer dans votre travail, on va partir tout de même de l'actualité, parce que c'est ça qui est beau dans votre travail, c'est que on revient il y a 2500 ans avec des clés de compréhension d'aujourd'hui. Xi Jinping quitte en ce moment même Moscou, où il a passé quelques jours avec comme point d'orgue la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était hier vendredi. La veille, jeudi donc, il a prononcé quelques mots en face de Vladimir Poutine au Kremlin.
Nos deux pays injectent une précieuse stabilité et une énergie positive dans un monde fracturé. Aujourd'hui, face à la tendance internationale à l'unilatéralisme et à un comportement de harcèlement hégémonique, la Chine travaillera avec la Russie pour assumer les responsabilités spéciales des grandes puissances mondiales et des membres permanents du Conseil de sécurité, et pour se dresser courageusement.
Comment, Romain Graziani, vous, l'historien du temps long de la Chine et de son pouvoir et de sa puissance, vous entendez ces mots ? Vous les entendez pas de la même manière qu'un journaliste ou qu'un spécialiste des relations internationales ? Comment vous les entendez-vous ?
À l'évidence, non. J'entends ces mots comme la pleine conscience qu'aujourd'hui la Chine est arrivée au point de puissance qu'elle désirait depuis une quarantaine d'années, qu'elle peut s'imposer comme arbitre responsable, que les errances brouillonnes et les tactiques intempestives du président Trump facilitent ce rôle d'arbitre international et le posent en position hégémonique pour imposer une sorte de nouvel universalisme.
Vous dites 40 ans, je pensais que vous alliez me dire 2500 ans.
Je vais vous surprendre, mais et je vais peut-être surprendre nos auditeurs, mais pour moi, la Chine est une nation plus jeune que les États-Unis. C'est une très ancienne civilisation, mais c'est une nation qui a dû apprendre de façon accélérée et très récente les dures lois de la politique westphalienne, qui était une nation qui s'est formée dans la douleur au XIXe siècle, en souffrant beaucoup des traités inégaux, et elle avait une vocation à s'imposer auparavant aux nations voisines du continent asiatique d'une manière tout à fait différente. Aujourd'hui, elle le fait à l'occidental, avec les revendications territoriales, avec une notion de souveraineté juridique, d'intégrité, de lutte pour le moindre rocher et le moindre îlot, qui est ce qu'elle a appris des nations occidentales de la façon, encore une fois, la plus douloureuse dès la moitié du XIXe siècle.
À l'occidental, mais sans oublier non plus les fondations, les fondements civilisationnels, c'est le cœur de votre livre. Vous avez parlé de Donald Trump et de son côté impétueux. À vous lire, c'est très intéressant parce que pour vous, un dirigeant dans la longue histoire chinoise et la mentalité chinoise, c'est quelqu'un qui s'est mesuré, qui est mesuré lui-même, qui s'est calculé, qui est rationnel. Comment voit-il Xi Jinping et comment voit-il les Chinois Donald Trump ?
Comment Xi Jinping et comment derrière lui les élites chinoises considèrent Donald Trump,
qui est tellement loin de ce portrait robot d'un dirigeant raisonnable et puissant comme les Chinois le dépeignent depuis 2500 ans.
C'est très intéressant parce qu'il y a un jeu de contraste et de ressemblance qu'on pourrait analyser sans fin. Xi Jinping et Donald Trump, manifestement, cultivent, se jouent d'un certain culte de la personnalité, mais une personnalité tout à fait différente. Donald Trump aime montrer sa vie privée, ses errances, ses caprices, ses turpitudes. Xi Jinping reste assez secret, mais veut imposer un style de gouvernance, une figure historique tout à fait différente. Je pense que le pouvoir chinois se doit de s'autoréguler pour beaucoup de façons, parce que rien ne vient le limiter de l'extérieur. Donc la garantie de sa légitimité, c'est qu'il paraisse raisonnable et qu'il puisse toujours se contrôler lui-même, puisqu'il ne saurait y avoir d'instance extérieure venant borner la folie ou l'arbitraire du pouvoir. Il y a eu dans l'histoire chinoise quelques mécanismes de sorte de remontrance, où il fallait remontrer en gros les bretelles de l'empereur, mais en fait c'était très conditionnel. Dans ces conditions-là, On pourrait faire un rapprochement entre les caprices et, il faut nommer ce qui est au sens médical, les délires de Donald Trump, pour une certaine, qui doit rappeler aux Chinois une certaine inspiration maoïste. Et on sait que Xi Jinping a construit sa légitimité et sa responsabilité sur ce slogan « c'est fini le désordre, c'est fini le chaos, la mort, la désolation, la ruine totale de l'État ». À certains égards, il est l'anti-Mao. Et les bouffées délirantes et égomaniaques de Donald Trump doivent faire résonner de façon assez sombre cette période de l'histoire chinoise qui doit être définitivement close.
Gilles.
Il y a à peu près un an, je discutais avec Pierre Nora, qui est le fondateur de cette bibliothèque des histoires de chez Gallimard, et qui me disait, je vais bientôt publier un livre sur la pensée politique culturelle chinoise de la Chine ancienne. C'est un livre majeur absolument formidable. Et si je n'avais pas une telle admiration ou une telle amitié pour Pierre Nora, j'aurais sans doute accueilli cela avec scepticisme et j'aurais eu grand tort parce que le livre est à la fois passionnant en lui-même comme source de connaissances et je dois dire que j'avais beaucoup de connaissances à combler sur cette période, mais c'est passionnant au-delà comme matière à réflexion non seulement sur la Chine contemporaine dont vous montrez les continuités avec la Chine impériale, mais aussi sur la gouvernance dans les démocraties occidentales. Et c'est, en prolongement de ce que disait Thomas, la première question que je voudrais vous poser sur la conception du pouvoir, et plus précisément du leader ou du souverain, qu'il soit empereur impérial ou président communiste. On a, en lisant le livre, l'impression que le pouvoir est pensé comme devant être à la fois très concentré, est très dépersonnalisé. Mmh. Et dépersonnalisé parce que c'est un moyen d'efficacité si on a un leader déficient, et aussi un moyen de protection du leader lui-même en le mettant à distance. D'une certaine manière, il assure l'unité au prix de son invisibilité. Est-ce que ça veut, la conséquence de ça, c'est que le pouvoir est transféré à la bureaucratie? Il y a aussi l'idée dans le livre d'une oscillation entre un souverain neutre et un souverain stratège. Donc, quelle place on a pour le souverain stratège? Et c'est là où je termine par ce que disait Thomas. Est-ce que Xi Jinping ne s'inscrit pas en rupture assez profonde avec cette idée de la dépersonnalisation?
Il y a d'ailleurs tout un chapitre qui s'appelle non pas le culte de la personnalité, mais le culte de l'impersonnalité. Il y a beaucoup de titres très bien trouvés d'ailleurs dans ce livre qui vraiment marque l'imaginaire et le lecteur. Romain Gradiani.
Bon, je vois que Gilles m'a adressé non pas une question, mais une batterie de redoutables problèmes à résoudre rapidement. Oui, le pouvoir chinois, et l'État chinois s'est construit dans la centralisation absolue contre la féodalité, contre les localités, contre les potentats. Et c'était un axiome du pouvoir chinois que lorsque le pays est stable, lorsque le pays est puissant, en ordre et riche, il est forcément concentré à l'extrême, il est uni, il connaît une cohésion maximale. Le problème, c'était la personnalisation du pouvoir. Qui dit personnalisation dit fragilité du pouvoir, dit précarité institutionnelle. Lorsque l'Empire est la proie d'inspirations diverses, de jugements à l'emporte-pièce, des caractères exclusifs d'un souverain... c'est une chose mauvaise. Il faut impersonnaliser le pouvoir, ça veut dire aussi le déshumaniser. Pourquoi ? Pour protéger le peuple et l'administration de la folie ou de l'immaturité du souverain, et en même temps permettre à l'appareil d'être dans une sorte de pilotage automatique. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que cette idée de pilotage automatique, de procédure impersonnelle et d'automatisation des tâches, elle est ce vers quoi nous mènent aujourd'hui les modes de gouvernance algorithmiques et elle a été formulée théoriquement de la façon la plus claire dès l'Antiquité. Voilà pourquoi il faut une archéologie, parce que le passé de la Chine dessine l'avenir de l'Occident.
Ça, c'est fascinant. On va creuser un peu cette idée-là. Le livre s'appelle « Les lois et les nombres ». C'est les nombres qui comptent ici. Et vous nous racontez que depuis 2500 ans, gouverner, ça veut dire compter en Chine quasiment. Expliquez-nous ça.
Les nombres sont un moyen d'introduire un modèle d'objectivité dans la gouvernance contre les errances et les effets nocifs de la subjectivité, de la trop grande personnalisation. On peut se battre sur une estimation, mais quand on a une calculatrice, le débat est clos. On peut prendre des gens qui ont plus ou moins un compas dans l'œil, mais c'est toujours un mètre ou une toise qui vous donnera la mesure exacte. Ces premières analogies toutes simples tirées du monde des artisans, des ouvriers et des premières formes de science ont inspiré les réformateurs de l'État en se disant si on avait les mêmes choses pour gouverner un État, un empire, ça serait idéal. Des instruments de précision, des instruments de mesure, des chiffres, des données qui soient incontestables, qui échappent à tout débat. Alors nous, on voit le danger de notre perspective démocratique, parce que quand ça échappe à tout débat et à toute critique et qu'on impose des nombres sans interrogation, on revient aux crises du présent en disant « mais qui forme ces algorithmes? Quels sont les biais derrière ?» Mais à cette époque très reculée, les nombres ont été vus comme la première façon d'asseoir des modes de domination objectifs, incontestables et qui ne dépendent jamais de la personnalité des agents, des fonctionnaires, des magistrats, des juges et des ministres en présence.
Ça veut dire, et je donne la parole à Natacha, que les Chinois, dans leur culture, n'ont aucune confiance dans l'humain.
Il y a une sorte d'optimisme anthropologique chez les Confucéens, mais chez les penseurs, qu'on appelle les penseurs légistes, qui ont bâti les grandes infrastructures de l'État qui ont été pérennes pendant 2000 ans, non. Il y a le pari que les humains ne sont jamais fiables, et au lieu d'essayer de les moraliser et de les transformer pour leur faire confiance, il vaut mieux leur imposer des instruments et des dispositifs qui fait qu'ils n'auront pas le choix et ne pourront pas mal agir. Ils ne seront mus que par la cupidité et l'appât du gain, et en ce sens-là, on ne fait aucune confiance dans ce système qui a présidé à l'État chinois aux hommes, non.
Natacha.
Oui, pour continuer sur cette thématique, en effet, ce qui est frappant dans ce livre, totalement fascinant, c'est la dimension pessimiste, noire de cette anthropologie et qui conduit à une surveillance absolue de tout, parce que les nombres sont utilisés pour surveiller et pour permettre de mesurer les mérites et les démérites de chacun. Et c'est en cela que on voit à quel point ce système de pensée politique est totalement adapté au numérique. Vous l'écrivez à un endroit, la continuité doctrinale évidente entre la gouvernance impériale réduit les dispositifs de surveillance actuels à des innovations purement technologiques, pas à de véritables changements de paradigme. Et j'ajoute, et ce sera ma question, cette surveillance globale, c'est aussi une suppression de toute forme d'intimité, me semble-t-il. Vous citez à un moment cette anecdote de la mise à mort de deux frères ermites qui vivaient dans leur coin, qui cultivaient leur terre, ne demandaient rien à personne. Ils sont mis à mort parce que les individus ne doivent pas se soustraire à l'ensemble, ne doivent pas rompre l'unité. Il y a là quelque chose, en effet, qui correspond totalement à l'époque actuelle de destruction aussi par les algorithmes de toute forme d'intimité et de possibilité pour les individus d'échapper au contrôle.
Romain Gradiani.
Oui, alors ma réponse va faire la transition entre une réponse précédente que je n'ai pas pu formuler et puis celle et les questions de Natacha. La grande révolution étatique dans l'Antiquité, elle a mis au point des choses qui nous effrayent et aussi des choses formidables qu'on a plus ou moins intégrées depuis le XVIIIe siècle. Par exemple, l'idée de méritocratie fondée sur les mérites et les démérites s'est instituée contre le régime des charges, contre les successions héréditaires et a permis, par exemple, en Europe, le système de recrutement des élites par la voie des concours.
C'est chinois.
Alors ça, normalement, ça vient de la Chine. En tout cas, la Chine a été un précurseur. Les filiations sont dures à retrouver pour les historiens, mais bon, moi, elles m'ont suffisamment convaincu, oui. Nous avons hérité également par des biens directs, de l'idée d'une technocratie, d'une gouvernance numérique aujourd'hui, d'une politique sécuritaire et, comme le rappelait Natacha, la surveillance. En Chine, c'était assez effrayant puisqu'il y avait des punitions collectives, la solidarité pénale, avec un recensement très intrusif de toute la population, une évaluation de la production, des performances individuelles au travail, sanctionnées par des coups de fouet ou du travail forcé ou des peines d'exil ou des mutilations pénales, renforcées toujours par des statistiques très précises et des rapports annuels sur le travail des fonctionnaires et de leurs administrés. Donc ça, c'est évidemment un cauchemar que on pourrait ranger au rang des dystopies. Oui, il n'y a pas de privé en ce sens-là. Le terme qui résume la sphère du privé et la liberté de mouvement des individus, c'est le terme se en chinois, qui est toujours dévalorisé par rapport à la sphère souveraine qui se confond avec la sphère du bien collectif, de l'intérêt de tout l'empire.
Un mot au traducteur. Ça veut dire quoi, c'est dévalorisé ?
C'est dévalorisé, c'est-à-dire c'est toujours attaqué et condamné comme une source possible de méfaits, d'enrichissement. Toutes les manifestations de la subjectivité individuelle sont toujours ravalées au rang d'intérêts égoïstes et de principes nuisibles au bien collectif.
Mais comment ils nous regardent, les Chinois ? je cherche le mot mépris, dédain... c'est parce que, vous lire, j'ai l'impression qu'on décrit beaucoup les Occidentaux quand même.
Alors, vous connaissez déjà les positions de Xi Jinping et des intellectuels du régime de Pékin sur la déliquescence des nations européennes. Les nations européennes seraient comme on serait resté à l'esprit des royaumes combattants qui sont toujours lancés dans une course mortelle à l'hégémonie, à la concurrence et auraient été incapables de formuler un grand projet d'unité, comme ça a été le cas avec le premier empire chinois. Quand on lit des philosophes confucéens d'aujourd'hui, qui ont une vue plus mesurée, on voit les charges continues qui sont lancées contre l'esprit occidental, où l'individualisme délétère s'oppose au sens noble de la famille, avec des hiérarchies, du respect, de la solidarité, de l'amour, par rapport à des individus égoïstes qui ne font que le jeu de leur intérêt et négligent la famille ou les voisins au sens large. Il y a évidemment une sorte de revalorisation des grandes valeurs du confucianisme par rapport à un système éthique occidental lamentable.
Gilles.
Oui, je voudrais revenir sur le deuxième terme du titre sur les nombres qui a beaucoup éclairé des choses que j'avais ressenties lorsque j'étais allé une demi-douzaine de fois en Chine pour des séminaires où à chaque fois j'étais fasciné par le début des discours de mes interlocuteurs chinois qui égrenait une succession de chiffres dont je ne percevais que l'intérêt de montrer à quel point la Chine était grande et l'Europe et la France étaient petites, mais qui manifestement venaient d'un peu plus loin de cette manie numérique que vous évoquez, pour reprendre ma formule. Deux questions très simples. Qu'est-ce qu'un nombre pour un Chinois ? Parce que vous dites que ce n'est pas seulement une unité de compte, c'est autre chose, une figuration symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et deuxième question, qui les nombres doivent-ils contraindre ? Est-ce que ce sont seulement les sujets ou les citoyens dont ils doivent guider les comportements ? Ou est-ce que ce sont aussi le pouvoir politique dont ils doivent réduire les marges d'appréciation ?
Romain Gradiani.
Gloops. Les nombres dans l'imaginaire politique chinois, avant d'être des quantités strictes avec les statistiques, les recensements, les tables de multiplication et de conversion qu'avaient les fonctionnaires dans leur poche pour travailler, étaient des sortes d'emblèmes symboliques. On mettait en forme le cosmos, on faisait des corrélations entre le cosmos et le pays et le territoire, entre les formes d'action humaine et les grands processus météorologiques, stellaires, par des nombres. Les nombres exprimaient un système absolu de corrélation, ils donnaient la structure ontologique de la réalité dont on pouvait s'inspirer dans l'ordre politique, que l'on pouvait infuser dans les manières, dans les conduites et dans toutes les produits de la réalité humaine. En ce sens-là, les chiffres sont des sortes de traits d'union entre la trame du réel et les pratiques quotidiennes, que ça soit pour cultiver la terre, pour administrer ses hommes, pour remplir les quotas du travail, etc. Donc ils ont une valeur qualitative et symbolique qui rentre toujours dans des jeux, dans des combinaisons, dans des schémas, pour exprimer à chaque fois et l'ordre du réel et la divination sur le futur.
Natacha.
Il me semble qu'une des grandes erreurs de ces dernières décennies de l'Occident en général, des États-Unis en particulier, est d'avoir cru que le capitalisme et la démocratie libérale allaient naturellement s'imposer au reste du monde parce que c'était un modèle que tout le monde voudrait copier.
Et notamment
les Chinois. Et les Chinois montrent justement aujourd'hui, et Xi Jinping en particulier, à quel point ça ne marche pas aussi simplement. Pour autant, la Chine vit actuellement une crise économique grave, une baisse de la démographie extrêmement prononcée, et on voit les enfants des nouvelles classes dirigeantes chinoises se mettre en scène sur les réseaux sociaux comme n'importe quel influenceur américain. Dans cette lutte entre le modèle occidental et le modèle chinois, qu'est-ce que la puissance, la permanence que vous montrez dans la culture politique va donner et en quoi ça rentre en effet en confrontation avec le soft power occidental?
Romain Gradiani.
Dans l'enquête que j'ai menée, j'ai essayé de montrer comment on pouvait avoir un regard lucide, renseigné, qui sait pratiquer le décentrement et la comparaison avec la Chine. Il me semble que si beaucoup d'experts et d'économistes, et parfois certains sinologues un peu modernistes, avaient eu ces données sur l'histoire chinoise dans les années 90, on n'aurait pas fait des pronostics aussi naïfs et aussi bêtement optimistes sur la Chine. On a cru qu'en introduisant les pratiques capitalistes et en faisant entrer la Chine dans l'OMC en 2000, la Chine connaîtrait des réformes institutionnelles qui les rapprocherait des grandes démocraties européennes et qu'elle adopterait une sorte de libéralisme politique. Ça a été une erreur monumentale et jamais les Chinois n'ont essayé d'abonder dans ce sens. Ils ont toujours été très clairs, mais on n'a pas voulu les entendre. La restauration de la puissance économique chinoise, elle a été le prélude à une affirmation de ses traditions et de sa différence vis-à-vis de l'Occident. Il ne faut jamais oublier que dans l'agenda politique chinois, il y a une sorte de vengeance par rapport à 100 ans de traités inégaux et humiliants.
Le siècle de la honte.
Le siècle de la honte, le siècle des humiliations. Et le concept même de loi, à partir du moment où la Chine a commencé à se doter d'un arsenal juridique sérieux, s'est construit en opposition avec celui des démocraties occidentales. Xi Jinping était très clair à partir des années 2020. Oui, on a une constitution, oui, on a une loi, mais il n'y a pas d'équivalent juridique de la loi, il n'y a pas de notion de droit, il n'y aura pas de notion de droit civil telle que l'attendent les démocraties occidentales. Les lois demeurent, comme dans l'Antiquité chinoise, un instrument de régulation, de contrôle, de supervision et d'enrichissement sans contrepartie.
Mais ce qui est intéressant et peut-être même fascinant, c'est le fait que s'imbriquent aujourd'hui les deux modèles, puisque vous avez commencé en disant que le modèle chinois aujourd'hui s'occidentalisait dans ses revendications notamment territoriales,
oui,
tout en maintenant son culte du nombre, et nous, occidentaux, entrons dans le culte du nombre, le versant chinois de leur civilisation, avec notre occidentalisme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une convergence, finalement, de ces deux mondes, chacun prenant chez l'autre un élément civilisationnel majeur ?
Oui, c'est une grande convergence et nous avons servi toutes les technologies numériques à la Chine qui lui ont permis aujourd'hui de mettre en œuvre son vieux projet plurimillénaire de gouvernance par les nombres. Ça, c'est évident.
Et on dit beaucoup en ce moment que le siècle américain est en train de disparaître et qu'un siècle chinois sera en train d'émerger. Ce qui est intéressant, c'est que le siècle américain, il reposait sur l'idée que Natacha vient d'évoquer, de la démocratie libérale qui s'exporterait partout. La démocratie, c'est il y a 2500 ans. chez nous, c'est Athènes. Le modèle chinois, le siècle chinois, repose également sur il y a 2500 ans. Mais que s'est-il passé de si puissant il y a 2500 ans pour servir de part et d'autre du monde, d'horizon et de base et de racine à notre puissance d'aujourd'hui et à notre modèle?
À la démocratie athénienne s'est opposée sensiblement à la même époque, quelques siècles plus tôt, une sorte d'universalisme à la chinoise, avec l'idée que tout ce qui était sous le ciel, eh bien l'empereur, le souverain, le monarque d'alors, en avait la responsabilité et la charge, qu'il régnait par sorte de règne concentrique. Il n'y avait pas de notion de frontière stricte, de souveraineté territoriale, mais plutôt une sphère d'influence diffuse. C'est ce modèle-là, où les différents peuples sont dans une sorte de hiérarchie par rapport au centre, qui dominait à l'époque et qui est aujourd'hui réactualisé par les philosophes chinois qui essayent d'opposer le modèle d'universalisme chinois par rapport au modèle démocratique issu de l'expérience athénienne et qui ne fonctionne pas et qui serait en crise et voué à une extinction rapide.
Il nous reste une petite minute et Gilles avait envie de vous poser une dernière question.
Oui, une dernière question. Vous évoquez beaucoup l'importance de l'unité dans la pensée politique chinoise. La Chine d'aujourd'hui est une Chine censée être une Chine communiste, mais une Chine avec de grandes inégalités. Comment il y a à la fois cette unité et ces inégalités?
Vous avez 40 secondes.
Très bien, et c'est plus qu'il ne m'en faut.
Bah très bien, allez-y.
Les inégalités, elles sont censurées. Le discours sur l'unité, il est lisse, il est théorique, il détourne son regard de beaucoup des problèmes et du principal problème de gérer la multiplicité, la pagaille et le désordre qui règnent dans le pays.
Merci, merci beaucoup Romain.
Merci à tous trois
pour votre précision et ce livre vraiment majeur, Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise. C'est édité chez Gallimard dans la bibliothèque des histoires, donc créée par Pierre Nora. Merci à Gilles et merci à Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Aujourd'hui, Mathilde Clatte et Grégoire Nicolet à la préparation, Étienne Bertin à la réalisation. Nicolas Delmas était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.